Radio Kapi. Le journal grâce à Mzati.
Insécurité à Ituri. Une quarantaine de civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans une attaque attribuée aux rebelles ADF à Komanda dans les territoires d'Irumu. Conséquence, la cité de Komanda s'est vide de ses habitants. Présentation la semaine dernière à Kinshasa par la coopération Nations Unies RDC du rapport annuel des résultats 2024 de la contribution collective du système des Nations Unies à l'atteinte des objectifs des développements durables ODD en RDC. Ce rapport est basé autour des trois axes stratégiques dont la consolidation de la paix. Restez avec nous pour en savoir plus. La Monusco procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés composés notamment des véhicules et appareils électroménagers dans les villes de Kinshasa, Beni et Bounia. Nous en parlons avec notre invité Joseph Moussouala de la section d'approvisionnement de la Monusco. Bonjour à tous. À Ituri, pour commencer, la cité de Komanda s'est vide peu à peu de ses habitants. Une attaque sanglante attribuée aux rebelles ADF a coûté la vie à une quarantaine de civils dans la nuit de samedi à hier dimanche. Depuis, la peur s'est emparée de la population. Les forces armées congolaises et ougandaises ont renforcé leur présence dans la zone. Le point avec Isaac et Raymond.
À Komanda, la peur se lit sur tous les visages. Après l'attaque meurtrière menée par les ADF aux alentours de minuit, plus de la moitié de la population a quitté la cité. Les quartiers bases, Zunguluka, Umoja et Ngombe Nyama, considérés comme les plus exposés, sont presque entièrement vidés. Certains habitants ont pris la direction de Kisangani, à traversant les ponts Ituri, d'autres fuient en moto ou à bord des véhicules de transport à commun. Ceux qui n'ont pas de moyens marchent tout simplement pour se mettre à l'abri. Pendant ce temps, les forces conjointes FARDC et armées ougandaises se déploient massivement dans la région. Leur présence visible rassure une partie des habitants encore sur place, mais la peur reste omniprésente. Les activités économiques sont à l'arrêt. Boutiques, marchés, restaurants et pharmacies sont fermés. Même les cultes dominicaux n'ont pas eu lieu presque dans toutes les églises. Les agriculteurs eux, n'ont plus accès à leurs champs. Face à la situation, les notables locaux appellent le gouvernement à démanteler tous les bastions ADF dans les territoires d'Irumu pour amener la stabilité. L'armée, elle, promet de s'exprimer dans les heures à venir. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Et dans les territoires de Beni au Nord Kivu, une dizaine de cas de viols et de violences faites aux femmes ont été signalés ce mois de juillet dans la chefferie de Bachu, précisément dans la localité de Boutoure, groupement de Malio. Selon la société civile locale et les structures de défense des droits de l'homme, des hommes en uniforme sont impliqués. Ces organisations réclament que justice soit rendue pour décourager ces actes dégradants dans la région. Marc Marofimo nous en dit plus.
La société civile de la chefferie de Bachu rapporte qu'au moins 13 cas de violences sexuelles ont été enregistrés ce mois de juillet dans les entités du groupement de Malio. Les cas les plus récents datent de jeudi dernier. Une jeune fille de 15 ans aurait été violée par un militaire des FARDC basé au camp de Boutouhé. Une situation jugée préoccupante par les acteurs locaux qui exigent que les auteurs de ces actes soient traduits en justice. Mambi Kaongia est le président de la société civile dans la chefferie de Bachu.
Nous appelons toutes les autorités compétentes, toutes les ONG de défense des droits humains, de pouvoir se saisir de cette situation afin que ces militaires soient traduits à justice et qu'ils répondent de son acte ignoble et que ça puisse servir de leçon pour d'autres qui sont en train de se mécomporter. Voilà pourquoi nous nous indignons contre ces comportements irresponsables tout en appelant les autorités de se saisir de cette situation pour que ces militaires soient condamnés conformément à la loi.
En réaction, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FARDC, affirme ne pas être informé de cette situation. Il ajoute toutefois que des enquêtes sont en cours pour en établir les faits. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Pendant ce temps, Kisangani dans la Tchopo, les victimes de la guerre des 6 jours demandent au chef de l'État de mettre un terme au désordre criant constaté au fond des réparations des indemnisations des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. À cet effet, ces victimes lui ont adressé samedi un mémorandum dans lequel elle dénonce la détention du coordonnateur intérimaire de cet établissement public, Chansar Bolukola, depuis vendredi dernier au cachot de la CNRF, la cellule nationale des renseignements financiers. Les explications avec Jacques Mukonkole.
La détention du coordonnateur provincial du Frivao est une cabale politique montée intentionnellement pour son éviction, peut-on lire dans ce mémo adressé au chef de l'État. Les rédacteurs de ce document en veulent pour preuve l'instruction qu'il y aurait été faite par le ministre de la Justice par intérim de procéder à la remise et reprise avec son prédécesseur sans qu'il ne soit réhabilité et qu'il n'en soit officiellement saisi. En apprenant la privation de liberté de Chansar Bouloukola, les victimes de la guerre des 6 jours de Kisangani ont manifesté dans la rue. Munis des calicots, ils se sont dirigés à la procure des missions pour tenter de remettre une copie du mémo à l'ordinateur du lieu. Ils n'ont pas pu le faire pour ne l'avoir pas rencontré. Afin d'éviter la remise en cause des acquis, les victimes des guerres demandent au chef de l'État de s'impliquer dans ce dossier qu'ils trouvent louche. Avec le coordonnateur intérimaire Chansar Bouloukola, ils ont été considérés à juste titre en percevant chacun une somme de 2000 dollars américains d'indemnisation contre 200 seulement avec l'ancien comité. Voilà pourquoi ils implorent le président de la République pour sa confirmation à son poste 8 mois après sa désignation. 8 mois après sa désignation par le ministre de la Justice sortant. Cela mettrait un terme à cette cacophonie, estime-t-il. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Comme dit au sommaire, la coopération Nations Unies RDC a présenté le 24 juillet dernier, ici à Kinshasa, le rapport annuel des résultats 2024 de la contribution collective du système des Nations Unies à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD en RDC. Ce rapport est basé autour des 3 axes stratégiques dont la consolidation de la paix. Enoch Katumbi nous fait le point.
Dans son allocution, le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur des opérations humanitaires, Bruno Lemarquis, s'est félicité de cette collaboration Nations Unies-RDC, tout en revenant sur les réalisations faites sur toute l'étendue de la RDC autour de ces 3 axes stratégiques, la consolidation de la paix, la croissance économique, l'accès aux services sociaux des bases et l'assistance humanitaire. Pour la partie congolaise, les directeurs généraux au ministère du Plan, Jean-Pierre Mukendi et celui de la coopération internationale et la francophonie, Célestin Kapongo, répondent conjointement aux questions des journalistes, ont fait montre de l'esprit anticipatif et de l'engagement du gouvernement à poursuivre l'élan normal des projets handicapés par les éventuelles coupures d'aide des partenaires. Les représentants de la RDC ont brandi les projets 145 territoires comme une initiative ambitieuse du président de la République pour le développement autonome du pays. Ce rapport reconnaît que l'année 2024 a été marquée par des événements majeurs dans un contexte compliqué par la persistance des tensions sous-régionales et l'insécurité à l'est du pays, aggravant une situation humanitaire déjà dégradée. Pour l'année 2025, l'équipe des Nations Unies reste optimiste quant à l'amélioration et le renforcement de ses objectifs.
En République démocratique du Congo, la traite des êtres humains, notamment celle des femmes et des enfants, demeure une réalité dramatique. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, Siobhan Mulali, en visite officielle dans le pays, tire la sonnette d'alarme. Elle appelle les autorités congolaises à agir de toute urgence pour mettre fin à ces pratiques et garantir justice aux victimes. Gisèle Cash.
La traite des êtres humains en RDC atteint des niveaux alarmants, selon Siobhan Mulali, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite de personnes. Dénonce une stratégie systématique utilisée par les groupes armés pour terroriser et contrôler les populations. Les femmes et les filles sont particulièrement ciblées, victimes d'exploitation sexuelle et d'esclavage sexuel. Et les enfants ne sont pas épargnés. Recrutés pour combattre ou assurer des tâches de soutien, ils sont aussi soumis à des mariages forcés, au travail des enfants ou encore à des violences sexuelles. Dans les zones minières, la situation est tout aussi préoccupante. L'exploitation illégale et le manque de régulation dans les chaînes d'approvisionnement favorisent le travail forcé des enfants dans un climat d'impunité alimenté par la corruption judiciaire. À cela s'ajoute une protection largement insuffisante des victimes, affaiblie par la pénurie de soins médicaux et les coupes dans l'aide humanitaire. La rapporteuse a également exprimé son regret après avoir été empêchée d'entrer en Nord Kivu par les autorités de facto du M23, une décision qui a entravé sa mission sur le terrain. Un rapport détaillé de ces constats sera soumis au Conseil de droits de l'homme des Nations Unies en juin 2026.
Autre nouvelle, les anciens étudiants de certains établissements publics éprouvent d'énormes difficultés pour retirer leurs attestations de réussite, voire leur élever les cotes après avoir fini leurs études. Tel est le constat fait par la rédaction de Radio Okapi à l'issue d'une enquête menée dans quelques universités de la capitale. Ces demandeurs d'emploi sont contraints de payer des sommes exorbitantes allant jusqu'à 220 dollars américains pour obtenir ces documents leur permettant de constituer leur dossier. Une situation qui ne leur facilite pas l'accès au monde professionnel déjà caractérisé par les difficultés de trouver un emploi. Qu'est-ce qui se passe réellement, Plonté Yambenga?
Les étudiants des universités de Kinshasa, approchés par Radio Okapi, n'ont pas caché leur inquiétude suite à cette décision qu'ils jugent inadmissible. Si certains se plaignent du coût élevé des frais fixés par les comités de gestion, d'autres par contre fustigent la lenteur qui s'observe durant les processus de retrait.
Vous devez d'abord payer les frais de relevé des cotes et cela revient à 10 dollars pour tout celui qui n'est plus étudiant et 5 dollars pour les étudiants. Et après cela, vous devez payer 10 dollars par attestation. Si vous en voulez donc deux, payerez 20 dollars.
Cependant, à l'Université des sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, plusieurs conditions sont posées avant d'obtenir les attestations. Notamment, le paiement des 150 dollars américains, frais de retrait du diplôme de graduat et celui des licences révèlent ces anciens étudiants.
Nous sommes en train de faire face à une situation qui est vraiment regrettable et qui est vraiment déplorable. Avant d'avoir notre attestation de réussite, on doit d'abord payer pour les frais des diplômes qui s'élèvent à 75 dollars. Imaginez un peu ce que ça va donner auprès d'un étudiant qui vient de terminer, qui est au chômage.
Ils interpellent les autorités du pays pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de mesures discriminatoires. D'après les témoignages recueillis auprès des étudiants, les paiements des frais de retrait des diplômes qui ne sont pas encore disponibles est la condition sine qua non posée par leur institution en violation des instructions du ministère. Toutes nos tentatives pour avoir la réaction de la ministre de l'Enseignement supérieur ont été vaines.
L'ONG Femmes Secouristes Para-Ecclésiastiques du Maniema a procédé samedi à la vente publique des braises écologiques. Ces braises sont fabriquées à base de déchets plastiques ramassés à travers la ville de Kindu dans le cadre du projet d'assainissement que mène cette ONG en partenariat avec le gouvernement provincial. D'après le responsable de cette structure, la fabrication de ces braises écologiques vise également la protection de l'environnement. Florence Kizalunga, reportage.
Le 600 kilos de braises écologiques présentées au public ont été achetés immédiatement par la population qui s'est réjouie de cette initiative. Ces quelques clients expliquent pourquoi ils ont vite acheté ces braises.
Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu braise écologique. Et c'est pourquoi j'achète 2 kilos pour voir si ça peut faire des semaines. Comme on nous a dit.
Moi, c'est un sentiment de joie parce que je sais qu'il y a la dégradation totale de la forêt. Mais avec cet usage de ce charbon écologique qui vient des déchets, moi je crois que la forêt ne sera plus encore dégradée comme auparavant.
Les femmes secouristes membres de l'ONG sont très heureuses d'avoir désormais une activité génératrice de revenus qui leur permettra à subvenir à leurs besoins. Amina Blandine est l'une d'elles.
Moi je suis très heureuse d'avoir un boulot de fabrication de braises écologiques. Aujourd'hui ça me prend en charge avec toute ma famille.
De son côté, Madame José Kimbalanga, coordonnatrice nationale de femmes secouristes, encourage la population à utiliser ces braises pour protéger l'environnement.
Nous encourageons les mamans à utiliser les braises écologiques parce que premièrement, ces braises écologiques sont économiques. Et de deux, ça ne salit pas nos mains ni nos maisons.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, l'opération de démolition des marchés pirates se poursuit. Cette fois, c'est la partie Itaga vers le marché central dans la commune de Kinshasa qui a été touchée depuis bientôt une semaine. Plusieurs étalages et constructions jugées non conformes ont été détruits. Selon des témoins, cette opération vise à libérer cette route qui devrait bientôt être asphaltée. Maria Ngoya et Sedivi Mwadi sont allés se rendre compte de la situation actuelle dans ces sites une semaine après. Suivez leur constat.
À notre passage, l'ambiance était plutôt calme. Contrairement aux brouhaha et aux bousculades habituelles, beaucoup de passants sont surpris de découvrir cette partie d'Itaga comme une avenue ordinaire en terre où des véhicules peuvent circuler sans encombre. Plusieurs étalages et constructions ont été démolis. Ces structures, selon les autorités, ne respectaient pas les normes établies, notamment en matière d'occupation de l'espace public. Certains vendeurs ont déserté les lieux, leur étalage ayant été détruit. D'autres, cependant, tentent de reprendre leurs activités, allant même jusqu'à reconstruire des nouveaux étalages non loin de là. Des témoins rencontrés sur place affirment que ces démolitions s'inscrivent dans un plan de réaménagement. L'avenue Itaga serait destinée à devenir une voie asphaltée principale sur laquelle le commerce informel est interdit, d'où l'intervention visant à libérer l'espace.
Actualité internationale.
L'investiture de Faustin Archange Touadéra par son parti, le mouvement Cœur Uni, continue de faire réagir en Centrafrique. Grâce à la nouvelle constitution adoptée en août 2023, le chef de l'État peut briguer un nouveau mandat. Une annonce qui divise profondément la population à 5 mois des élections générales.
L'invité.
La MONUSCO procède à une vente aux enchères des lots d'articles divers usagés composés de véhicules, appareils électroménagers, équipements de communication et électronique, pompes et conteneurs. Selon Joseph Moussoua, la responsable d'approvisionnement à la MONUSCO, 3 villes sont retenues pour cette vente. Il s'agit de Kinshasa le 5 août prochain, Beni et Bounia le 12 et le 13. La présence physique de tous les intéressés est obligatoire les jours de la souscription, martèle-t-il. Suivez toutes les modalités de cette opération donnée ici par Joseph Moussoua dans cet entretien avec Blaise Shindani Kambala.
Monsieur Joseph Moussoua, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La MONUSCO prévoit une vente aux enchères de plusieurs lots. Pouvez-vous nous préciser de quel article il s'agit exactement?
Merci pour la question. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a prévu faire la vente aux enchères principalement dans 3 villes. Il s'agit de Beni, Bounia et Kinshasa. Et là, les différents lots comprennent les matériels du genre groupe électrogène, véhicules et puis les équipements électroniques. Et cette vente dans ces différentes villes sont prévues dans des dates telles que Kinshasa, c'est déjà pour le 5 août, et Beni et Bounia, il y a 2 jours, du 12 au 13. Pourquoi 2 jours? Parce que la plupart des clients qui vont acheter à Beni vont aussi à Bounia. Donc c'est pour permettre que celui qui était à Bounia puisse aussi se déplacer le jour suivant à Beni et vice-versa. Mais pour Kinshasa, c'est seulement un seul jour.
Oui, et parlons maintenant du déroulement de la vente. Comment cette vente va-t-elle se passer concrètement et que doivent faire les personnes intéressées pour participer aux enchères?
Ok, comme le programme est donné, il est demandé à tous les enchérisseurs qui veulent bien participer à notre vente, d'abord de suivre le communiqué parce que ça indique les endroits précis où la vente aura lieu. Comme ici à Kinshasa, on sera à Kingabwa, à notre site qu'on appelle Incal. C'est là qu'il y a l'entrepôt de PDU où tout le matériel qui sont mis en vente sont exposés. Et là, le jour de la visite, les gens vont arriver sur place pour visualiser le matériel qui est mis en vente. Et à la même occasion, il y aura une session de briefing, donc une session d'information, où on va d'abord remettre les documents qui contiennent la liste de tous les biens qui sont mis en vente, et on va donner des explications aux acheteurs pour les aider à mieux comprendre et à mieux présenter leur soumission pour qu'ils puissent être acceptés et éventuellement gagner des lots s'ils sont les meilleurs offrants.
Certains de ces lots incluent les véhicules de la MONUSCO qui seront généralement exonérés des droits de douane. Quelles sont les démarches ou conditions particulières à remplir pour ceux qui souhaitent acheter ces véhicules?
Comme vous l'avez dit, que la MONUSCO jouit de certaines exonérations par rapport à l'importation de ces biens. Mais maintenant que ce sont les privés qui vont s'en approprier, eux, ils sont appelés à remplir les droits des douanes. C'est-à-dire, ceux qui auront gagné des lots, un document leur sera remis. Et sur base de ce document, ils vont se rendre au bureau de l'État, précisément à la DGDA, qui a déjà la liste de ces biens que la MONUSCO est en train de mettre en vente. Parce que, avant de commencer le processus, nous informons le gouvernement congolais de cette activité. Alors, quand ceux qui auront gagné recevra la notification qu'il a gagné 1 ou 2 ou 3 lots, maintenant, sur base de ce document, il va se présenter au bureau de la DGDA et là, il va remplir les formalités douanières. Et là, la MONUSCO a déjà pris des arrangements avec la douane pour leur faciliter cette tâche.
Oui, d'aucuns craignent que la douane peut être exorbitante, hein, connaissant le Congo, ça peut être supérieur par rapport à la valeur du véhicule. Est-ce que la MONUSCO a pris des précautions pour essayer de faciliter la tâche à ces souscripteurs-là?
Sauf changement, mais la MONUSCO, à l'époque, était confrontée à ce genre de situation. Alors, les négociations avaient été faites entre la mission et le gouvernement congolais pour faciliter justement la prise en compte des prix de vente par, comme ça se faisait dans le temps, on prenait le prix comme si le matériel venait d'arriver. Mais maintenant, là, on tient compte du prix d'achat que l'enchérisseur a acheté ici, localement au Congo.
Ok. Dites-nous alors, monsieur Joseph, une question que beaucoup se posent. Le personnel des Nations Unies, y compris celui de la MONUSCO, peut-il participer à cette vente aux enchères?
Et je crois bien que cette question avait été clarifiée lors de notre vente passé. Dans le passé, c'était une interdiction, mais depuis, je crois, 2 ou 3 ans, la mission a maintenant ouvert la porte, comme tout autre enchérisseur, donc même les staffs des Nations Unies, toutes agences confondues, sont autorisés à participer. Néanmoins, à quelques exceptions près, il y a des gens qui sont impliqués dans la vente, comme moi et mon équipe. Donc, comme je fais partie de ceux qui traitent les dossiers de vente, nous ne sommes pas autorisés de participer. Si nous voulons le faire, alors nous devons sortir de l'équipe, sinon ça va faire un conflit d'intérêts.
Maintenant que les agents sont autorisés à participer, y a-t-il des conditions spéciales ou des tarifs préférentiels qui leur sont réservés?
Malheureusement non, parce qu'on ne va pas faire deux poids deux mesures. J'aimerais vous rappeler qu'il y a même eu une vente exclusivement réservée au staff des Nations Unies. Et là, il n'y avait que des staffs. Maintenant que si c'est ouvert au grand public, ben, tout le monde vient comme le grand public.
Monsieur Joseph Monsoala de Procurement, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
8h20 à Kinshasa, c'est la fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et Jean Gandou. Pierre Diassinois a assuré la mise en onde. Merci de l'avoir écouté et bonne suite de l'antenne matinale avec Kaki Akewa.